sommes entre Loire et Loin. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du magazine du Gâtinais sur C2L. Merci de nous écouter et merci de nous regarder en vidéo sur les réseaux, sur Facebook, sur YouTube notamment. Cherchez-nous, entre Loire et Loin. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, Jeff Poitvin nous racontera l'histoire de son association humanitaire Hercule Haïti. Nous parlerons également contes avec Lisa, une nouvelle venue dans la région. Nous parlerons musique avec Yuri qui joue d'un instrument très singulier, le cymbalum. Et enfin, nous parlerons beauté, élégance, avec peut-être la future Miss Loiret, c'est Marie-France qui sera sur notre canapé. Elle représentera cette semaine le territoire gâtinais. On se retrouve donc dans quelques instants entre Loire et Loin.
www.c2l-radio.fr.
Nous sommes entre Loire et Loin, merci de nous écouter sur C2L. Et pour commencer cette émission, je vous propose un rendez-vous avec la beauté et l'élégance, peut-être la future Miss Loiret, c'est Marie-France, au micro de Sandrine Manteau.
Qui est cette jeune femme? Cette jeune femme, elle s'appelle Marie-France Stoïka et elle se présente à la à Miss Loiret. Alors, Miss Loiret, voilà, candidate à Miss Loiret.
Oui.
Et tu vas représenter, Marie-France, le Montargois ou est-ce qu'il y a d'autres Montargoises?
Alors, bonjour Sandrine, merci de me recevoir sur ce plateau de C2L. Les candidates sont majoritairement concentrées vers l'Orléanais. Et donc, c'est depuis très longtemps qu'on n'a pas vu une curtinienne, du moins, se présenter à une élection départementale comme celle du Loiret.
Ah oui, alors vous vous rendez compte, hein, c'est le Montargois, mais là c'est tout en haut du Montargois, extrême est, courte, Nay. Voilà. Alors, vous êtes 17 candidates pour cette élection de mi-soirée.
C'est ça, tout à fait.
Et tu es le numéro
16.
Alors, il faut le dire tout de suite quand on connaît le numéro, parce qu'il faut se mettre dans la tête. Et puis, 48 heures environ avant l'élection qui aura lieu, le 17 mai ?
Le 14 mai.
14 mai.
Et donc, c'est la semaine qui précède l'élection où les votes seront ouverts par SMS.
Alors, pourquoi, d'abord, à part le fait qu'elle soit classe et belle, cette dame, pourquoi est-ce qu'on doit voter obligatoirement pour notre numéro 16 ?
Alors, on doit voter pour moi, car déjà, c'est un rêve de petite fille.
Tu peux regarder là, regarde aussi.
C'est un rêve de petite fille et je suis très, très attachée à notre territoire depuis toute petite. Mes parents se sont installés donc, à Courtenay il y a maintenant 30 ans. Et puis la fille a suivi, elle est venue dès que ses études ont été terminées, elle a chopé, elle a remis ses lettres pour pouvoir travailler dans un premier temps dans Lyon, puis à Courtenay depuis maintenant une douzaine d'années.
Alors qu'est-ce que tu fais ?
Je suis responsable de communication à la mairie de Courtenay.
Ah, voilà.
Voilà.
On y arrive.
C'est ça.
Bon, alors moi, il y a quand même un petit truc que j'ai entendu là, qui m'a sonné à l'oreille. Tes parents sont arrivés il y a 30 ans, mais je croyais que les Miss, il y avait un critère d'âge. Alors, ça veut dire quoi ?
Alors, en effet, jusqu'à présent, il y avait des critères qui plafonnaient l'inscription à 24 ans. Or, j'en ai 10 de plus. Donc voilà, il y a eu ce changement qui ont permis à d'autres femmes comme moi de pouvoir candidater. Donc c'est une grande nouveauté. Et d'ailleurs, on a la Miss Berry qui a été élue il y a quelques semaines, qui a 30 ans et qui a 2 enfants. Donc ce qui marque vraiment un changement notable dans le monde des Miss.
Voilà, tu parlais aussi de choses qui ne te concernent pas, mais par exemple des femmes qui ont des tatouages, on peut
voilà,
aussi.
Voilà, tout à fait.
Des piercings ?
Des piercings. Après, voilà, il faut rester quand même effectivement dans la discrétion.
Il ne faut pas être la femme lézard.
Bon, voilà, il faut... néanmoins, voilà, il y a eu une évolution là-dessus. Et donc, on voit qu'il y a vraiment un changement dans le monde des Miss.
Est-ce que tu as eu peur lors des sélections ?
Non, franchement, j'ai été très, très à l'aise. Je pense que voilà, faut rester naturel. C'est vraiment ce que je prodigue le plus, je dirais, tout au long de cette aventure. C'est d'être naturel, d'être spontané, d'être élégante, d'être à l'écoute.
Alors voilà, bon, moi j'ai une petite carte en plus dans la main par rapport à vous, c'est que je connais bien Marie-France puisque je connais bien Courtenay. Et je peux vous dire que le truc, c'est que Marie-France, elle ne se met pas sur son 31 pour venir ici à Entre-Loire-et-Loire ou le temps de l'élection. Marie-France, je l'ai toujours connue, quel que soit le jour, quel que soit le temps dehors, j'ai toujours connue sur son 31. Parce que tu dis qu'une femme...
Oui, une femme doit être au top tout le temps.
C'est ça ton truc, j'ai toujours entendu dire ça.
Et surtout qu'en plus de ça, je veux dire, il n'y a pas d'âge pour être belle. Donc voilà.
À part la beauté, qu'est-ce qu'il vous demande ? Donc il vous demande une prestance, une aisance, comme tu le disais ?
Oui, et puis avant tout, il faut être aussi très présent sur les réseaux sociaux. Il faut être régulier, il faut construire aussi une communauté, les fidéliser, de manière aussi à déjà d'une part véhiculer voilà, une image, et puis aussi obtenir des soutiens en vue de l'élection.
Alors, Marie-France, elle disait, c'est sa passion depuis qu'elle est petite. Et dernièrement, elle est allée voir, par exemple, l'élection de Miss Lyon.
Oui, j'ai vu Tania Pozzo il y a tout juste une semaine, où déjà, d'une part, effectivement, même si j'avais déjà assisté à certaines élections il y a maintenant quelques années, ça m'a permis vraiment de me projeter, de ressentir vraiment les émotions qui vont arriver d'ici quelques semaines. Et j'ai eu l'occasion effectivement de la féliciter et de la revoir là il y a quelques jours avec beaucoup de plaisir.
Voilà, et je crois que pour toi, devenir Miss Loiret, voire Miss Centre-Val de Loire, voire, eh bien, c'est vraiment l'envie de devenir ambassadrice de ton territoire que tu connais bien. Alors, le Curtinien,
bien
le reste, mais quand même, tu vas beaucoup plus loin.
Oui, bien sûr, j'ai l'occasion effectivement d'aller dans le Génois, d'aller dans l'Orléanais, d'aller aussi du côté de Ferrières-en-Gâtinais, le Montargois, et puis bien évidemment aux alentours de Courtenay et du territoire de la 3CBO notamment. Donc, je suis très attachée à mon territoire et ce serait vraiment pour moi un honneur d'être l'ambassadrice pour notre Loiret.
Oh, c'est bien. Alors donc, tu nous rappelles les dates ?
Alors ce sera le 14 mai prochain à la salle de Rebréchien.
Rebréchien, c'est l'Orléanais, hein, je crois.
C'est à côté d'Orléans, tout à
et
fait.
Et de toute façon, ne vous précipitez pas parce que je crois que c'est plein. C'est déjà plein.
Oui, les places sont parties en 24 heures.
Parce qu'ils savaient que Marie-France était
là. Néanmoins, voilà, les votes SMS seront ouverts, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques jours avant le jour fatidique.
Ça coûte pas cher. Le vote.
C'est à 0,75 centimes le SMS.
On peut envoyer plein de SMS. Bon, mais c'est bien, t'as un peu peur. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens autour de toi, Marie-France ?
Les gens sont très très contents. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a un engouement, il y a beaucoup d'amour. Vraiment, ça me va droit au cœur. Et c'est pour ça que ça me donne d'autant plus l'envie l'envie de rien lâcher et de ne pas décevoir et d'y arriver.
Là, je suis supposée me faire une petite idée de ce qui est osé. Filmer un peu de mes pensées. J'avais pas à l'idée, non, de m'envenimer avec tout ce qu'on m'a raconté. La force de rêver malheureusement ne fait qu'empirer. C'est pas vraiment le fait que vous mentez. Comment est-ce que vous faites pour vous sauver? C'est pas vraiment un problème d'honnêteté. Après tout, vous êtes seul avec votre personnalité inventée. Crois pas que je vais t'oublier. Tes mots n'ont pas plus de poids que le H de mytho, mytho, mytho. Et tu mérites la fessée.
La fessée, la fessée, la fessée.
Mon corps a conservé tous ses papiers. La musique vient un peu réveiller tout ce dont j'avais prévu de me passer. Mais c'est pas vraiment le fait que vous mentez. Mais comment est-ce que vous faites pour vous sauver? C'est pas vraiment un problème d'honnêteté. Après tout, vous êtes seul avec votre personnalité inventée. Crois pas que je vais t'oublier. Tes mots n'ont pas plus de poids que le H. Mytho, 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 et tu mérites la fessée.
La fessée, 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 la
fessée, la fessée, la fessée, la fessée, la fessée, la fessée, la fessée.
Too innocent. I'm about to speak a little bit like a Jamaican boy. Jamaica in my veins. Jamaican boy. Jamaica in my veins.
C2L Radio.
www.c2l-radio.fr.
Nous sommes entre Loire et Loin, c'est le magazine du Gâtinais sur C2L et c'est aussi sur sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, cherchez-nous entre Loire et Loin, regardez-nous en vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et je vous propose à présent de parler musique avec un instrument très particulier, le cymbalum. C'est Yuri au micro de Sandrine Manteau.
Amis d'entre Loire et Loin, connaissez-vous le cymbalum? Alors, Yuri Morar, ici présent, est un spécialiste du cymbalum. Il est appelé partout en Europe, partout dans le monde, dirais-je. Oui. Il fait oui, comme ça, d'un air très naturel et très modeste. Et pourtant, on pourrait savoir ce que c'est que ce cymbalum, parce qu'il en existe, paraît-il, depuis l'aube des temps, et c'est une façon de parler, dans tous les pays.
Oui, dans tous les pays. Oui.
Alors, Yuri.
Dans tous les pays, en fait, le cymbalum, c'est un instrument à cordes frappées. On frappe avec des petites maillotches, avec des baguettes. Au bout de baguette, il y a du coton. En fait, généralement, on dit qu'il vient de Perse. De Perse. Et puis, le cymbalum, comme tous les instruments, il était transporté avec les voyageurs. Il était perfectionné. Le cymbalum. Grâce au cymbalum, on peut dire que ça existe le piano, le clavecin, tout ça, tous les instruments.
Alors Yuri, il a un drôle d'accent, il vient d'où Yuri? Il habite près de Courtenay, il est prof, entre autres aussi, à l'école de Courtenay, parce que quand il ne sait pas quoi faire, entre deux avions, il dit tiens, je vais donner des cours à l'école de musique de Courtenay.
Il n'y a pas que l'accent, il s'appelle aussi Yuri.
Il s'appelle aussi Yuri, alors tu viens d'où Yuri?
Je viens de Moldavie. La Moldavie, c'est un tout petit pays qui est situé entre la Roumanie et l'Ukraine. Un petit territoire pareil comme les Pays-Bas.
T'es arrivé en France avec ton cymbalum sous le bras?
Pas tellement, puisque le cymbalum pèse une centaine de kilos. Bien en voiture. C'est un instrument assez consistant, lourd, et il faut l'accorder, il faut prendre soin, comme les êtres humains.
Alors, tout à l'heure, on voyait un petit peu ensemble le plus caricatural pour vous parler du cymbalum. On va vous envoyer plein de musique. Monsieur Weber, il va rajouter plein de musique sur cette petite interview. Mais le plus caricatural, c'est le grand blanc avec une chaussure noire.
Mais sinon, à part ça, moi, en fait, tout ce que j'ai enregistré, j'ai une vingtaine de films, entre autres. J'ai enregistré beaucoup avec Alexandre Desplat. Alexandre Desplat, c'est un compositeur assez connu, en fait, qui a écrit la musique sur les
Grand Budapest. Grand Budapest Hotel.
Les derniers Harry Potter aussi, c'est lui qui a écrit la musique. Donc j'ai enregistré avec lui L'Armée du Crime. Largo Winch. Chérie, je suis à même en image avec Michel Pfeiffer. On a tourné, donc j'ai eu la chance de les connaître.
Dis-moi, pourquoi toi? Parce que t'es le meilleur et parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait des joueurs de ce ballon?
Non, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en fait.
Les deux?
Je crois que pour 66 millions en France, on est, je crois, qu'une dizaine. Donc, assez.
On va garder cette place parce que vraiment, on a un homme d'exception qui s'assoit sur ce canapé, monsieur Weber. Dis-moi, pourtant, ce n'est pas ton premier instrument.
J'ai commencé le cymbalum plus tard. Mon premier instrument, en fait, c'était l'accordéon, mais j'avais. Le destin fait que. J'avais un prof qui ne m'a pas trop motivé, disons comme ça. Et donc, j'ai eu.
Moi, je sais, il a du mal à en parler, mais moi, je sais. parce qu'on en a déjà parlé.
Oui, oui.
Et donc, en fait, tu as appris le cymbalum pour passer tes examens en très peu de temps, alors que c'est un instrument difficile.
Oh oui, bah, j'ai passé exactement une semaine à apprendre mon programme de 5-6 ans. Donc voilà, bah, c'était... Tout le monde était assez étonné. J'étais le premier à faire cette je sais pas, bêtise ou pas. Mais je travaillais du 6h du matin jusqu'à minuit. Je prenais le dernier trolley à l'époque pour rentrer chez moi. Et j'ai prêté le baguette, j'avais même pas de baguette. J'avais même pas le programme en fait pour rentrer après. Et donc,
au conservatoire, c'était un conservatoire?
Donc la classification, en fait, c'est école de musique, et ensuite il y a le collège. Un collège, c'est comme les conservatoires régionaux en France, donc c'est comme un petit niveau. Ensuite, il y a le conservatoire national. Donc voilà, bah, c'est entre autres, c'est une petite histoire comme ça, en fait, pour le collège. Donc j'étais le seul pris, en plus, sur tous les joueurs de cymbalum, en fait, qui ont fait les études pendant je ne sais pas combien de temps. Mais j'ai une autre histoire, en fait, je ne sais pas si tu connais. J'étais aussi le seul qui, pas à l'époque, j'étais le seul, en fait, qui a fini le conservatoire en 4 ans, à la place de 5 ans. Voilà. Tout simplement, j'avais mis
Simplement.
Une petite prédisposition.
Oui, voilà.
Bon, dis-moi, quand... un compositeur a envie de faire appel au cymbalum. Qu'est-ce que ça apporte?
Ça apporte de la couleur, de quelque chose de mystérieux, en fait. Une touche, ça peut être une touche chinoise, une touche barbare.
Barbare.
Oui, aussi, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de coton, en fait, ça donne un peu le côté métallique, et on peut avoir peur, en fait, qu'on prend les cordes, en fait, toutes les cordes. J'ai une petite explication sur YouTube.
D'accord.
Où je montre tout ça, en fait.
Parce qu'en fait, il y a plein de baguettes différentes. Il y a des baguettes avec du coton, des métalliques, des en bois, avec des petites boules,
Et donc, après, on peut pincer les cordes, on peut frapper plus fort, moins fort.
Bon, c'est grand comme un piano, hein, ton cymbalum.
Ça fait 1,50 m, il pèse 100 kg. C'est le même principe d'accordage, en fait, que le piano. Donc, il faut accorder avec la même clé d'accord.
Est-ce que toi, tu composes?
Je compose très peu, mais je compose. J'ai fait surtout beaucoup d'arrangements, en fait. Presque 10 ans, j'ai un groupe... d'une dizaine de musiciens qui sont sous ma responsabilité. Et donc c'est moi qui ai écrit tous les arrangements, en fait, pour plusieurs programmes. En fait, on trouve sur RGR Spectacle. Donc on tourne toujours avec une trentaine de danseurs, avec un grand bus, et on part...
Et alors, sur 10 musiciens, il y a quoi dans l'orchestre? Et comment s'appelle ton orchestre?
Il n'y a pas tellement de noms, en fait. Chaque programme a un nom.
Oui.
Et donc c'est le programme, en fait, actuellement, c'est le programme PLASK, PLIASKKA. C'est sur RGR Spectacle, les sites, vous trouvez... Donc voilà, ben on fait les zéniths d'Orléans, les petites salles de 8000 places, 10000 places.
C'est assez ridicule, hein, Yannka, ça ne nous impressionne pas du tout. Non.
J'ai oublié de dire que je vais jouer aussi à Courtenay.
Ah
oui, le 17 novembre.
Il va pleuvoir.
Non, il ne va pas pleuvoir.
Depuis le temps qu'on attend Yuri Morar à Courtenay au pôle culturel.
Oui.
On voit qu'il y a eu un changement de direction.
Oui, j'ai essayé depuis 2015, mais...
Mais tu t'es bradé C'est une private joke entre nous. Hein. Voilà, mais oui, en fait, il y a Courtenay, il y a ça, mais à côté de ça, il y a des dates impressionnantes. Raconte tes dates.
En fait, les dates, c'est les dates simples. Je joue partout dans le monde. Je joue chaque année au Japon, en Chine, Russie. Non, Russie, c'est fini. Après, en Europe, partout, vraiment partout. En Afrique et le Nord, voilà. Je pars à Luxembourg, je vais jouer avec les solistes européens, en fait, c'est un orchestre de Luxembourg. Donc on a une répétition, un concert après.
Voilà. Et puis il y a ça. Ça c'est les derniers disques.
Les derniers qui sont sortis cette année. Hein.
En fait,
puisque je n'ai une trentaine.
Sonam.
Souzamène, en fait, c'est l'histoire des peuples qui ont vécu le génocide. Donc les peuples les arméniens.
Ah oui, ça s'écrit pas du tout comme en allemand. Hein.
Oui, mais et puis les tziganes et puis les juifs en fait qui ont fui ce qui en fait on vit actuellement avec un petit peu avec l'Ukraine. Mais bon, c'est les peuples qui étaient exterminés et qui ont vécu le pire de leur vie. Et donc tout ça, ça raconte un tout petit peu en fait. C'est un programme avec les cœurs d'enfants souvent. Et c'est très 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 émouvant, très très beau. J'ai même des frissons en fait quand je parle de ça en fait. Parce qu'il y a la vie, il y a la mort, il y a tout dedans en fait. Donc ça, c'est les derniers qui sont sortis vraiment.
Ça, le raconte Beauté
ça,
Barbare.
C'est Beauté Barbare en fait, c'est avec les musiciens de Saint-Julien. Je fais de la musique baroque, je suis tellement fier de faire ça. C'est le Saint-Badon en fait. On l'accorde différemment en valotti pour les spécialistes. Donc on joue plus souvent en fait sans coton. Pour imiter un peu le clavecin, il est un son qui est très très particulier. On joue beaucoup de Telemann. Et puis bon, on a tourné en Pologne, Italie, Autriche, en France aussi. On a joué, je voulais dire avant-hier à la salle Corto. Voilà.
Le dernier.
Les derniers, bah, c'est Stravinsky, les noces de Stravinsky, c'est le rêve de Stravinsky en fait, de faire cette version, donc il va être content pour une fois. Il ne trouvait pas une version avec deux cymbalums à l'époque, et les noces de Stravinsky, c'est une version avec deux cymbalums, qu'il ne trouvait pas de deuxième cymbaliste, donc joueur de cymbalum.
T'étais pas né encore ?
Non, j'étais pas né. Donc, et sa version, en fait, qu'il rêvait depuis tant, elle est finalement enregistrée. Donc, avec ce programme, bah, on va jouer, par exemple, à Vienne, à Musique Verein. C'est la plus belle, je peux me permettre, des salles de concert d'Europe. Vraiment, voilà.
Voilà, bah, on a le dernier mot hein, là-dedans. Grâce à Youri Morar, Igor Stravinsky est enfin un homme comblé, en fait. Voilà. Alors, bah, merci. Nous, on s'était...
Merci Sandrine de l'invitation. Et puis, j'ai oublié de dire, en fait, on a des petits projets quand même avec Lisa, en fait, de faire quelques contes en musique.
Il y en a vraiment, il y a des filles qui ont de la chance quand même de travailler avec Youri Morar.
Merci.
Iarvan tum zice ucicând despre nevoi și de durere. De ce oare când crește, când cine s-o felește? De ce oare, Doamne, când crește? Dar mai ziceți măcând de țări de oameni și toate cele. De ce oare, Doamne, nu se uscă? Dar când îmi zice am să plec, fantul meu va și vărtă. De ce oare când ne crește, când cine s-o felește? De ce oare, Doamne, crânga crește? De ce frunza nu se uscă? Crângăgunța nu e în viață. De ce oare, Doamne, nu se uscă? Apa trece, pietrele rămân. Mă-ntreb și sună apa sau piatra. De ce oare crânga crește? Rădăcina s-o felește. De ce oare, Doamne, crânga crește? Oh, 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 oh.
sommes toujours entre Loire et Loin. Merci de nous écouter sur ces deux ailes et merci de nous regarder en vidéo sur les réseaux, sur Facebook, sur YouTube. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et je vous propose à présent de faire la connaissance de Lisa. Elle est toute nouvelle dans la région, mais elle est conteuse.
Je n'ai jamais parlé de ma rencontre avec Zabul à qui que ce soit. Mais il y a certains souvenirs magiques dont on aime garder le secret. Le jour de ses 8 ans, Lucas apprend qu'il va bientôt avoir un petit frère. Quel choc! Lui qui croyait que l'amour de ses parents lui appartenait. Alors plutôt que de se sentir remplacé dans leur cœur, il décide de tout quitter. Mais il ignore que sa fugue le conduira vers une forêt enchantée, où certaines rencontres magiques vont le transformer. L'histoire de Lucas, c'est le récit d'un petit garçon qui nous fait découvrir quel cadeau la vie réserve à ceux qui ont le courage d'affronter leurs peurs et d'ouvrir leur cœur. Merci Lisa Wormser pour ces quelques mots. Ça, c'est notre... Oh, ça devient magique, cette émission d'Entre Loire et Loin, Monsieur Weber. Parce qu'une jeune femme entre dans le studio avec Youri Morar et cette jeune femme vient d'écrire un livre. Elle arrive, elle dit, voilà, je viens d'écrire un conte, j'habite Shamcock. Et puis je lui dis, mais Lisa, t'es tellement belle, viens sur le canapé. Voilà. C'est bien.
C'est super. Merci Sandrine.
Alors dis donc Lisa, ça date de quand ce livre? Il vient de sortir?
Il vient de sortir, il est tout chaud, il a été publié il y a quelques semaines, à peine.
D'accord. Donc ça fait longtemps que tu voulais passer de l'écriture en chambre à un vrai petit objet magnifique pour faire partager en fait ton écriture avec les autres.
Exactement. En fait, depuis toute petite, j'écris. Alors, comme tous les enfants, j'ai écrit des poèmes, des petites histoires, etc. Puis j'ai continué quand j'étais adulte. Après, j'ai travaillé un peu dans la com, ce qui m'a fait continuer à écrire. Et un jour, je me suis dit, pourquoi je ne me lancerais pas? Et Lucas est né.
Moi, voilà. Quand même, une jolie petite fée rousse comme ça, comment elle arrive à Shamcock? Et pourquoi je la connais pas d'abord?
Hein, d'abord.
D'abord. Et ma culture locale en prend un coup quand même.
Hein? Et pourquoi je la connais pas, Sandrine, d'abord?
Mais, hein?
Alors la question, c'est comment je suis arrivée à Shamcock?
Mais oui.
L'amour? Non.
Non, ça c'est mauvaise pioche.
On a désespoir.
On va partir en crise.
J'ai pas de désespoir. Je pense envie d'habiter à la campagne.
Ah, c'est bien.
Ouais, voilà. Et Shamcock est arrivé. Ah. Voilà, avec sa rivière, avec. Enfin voilà, j'avais envie de vivre en pleine nature, au milieu de la nature, justement, des animaux, des fées, de plein de choses. Et c'est ce que j'écris du coup.
Voilà, parce que Lisa, elle aime les fées. Qui lui ressemble. Alors, c'est quoi une fée? T'aimes les fées depuis toujours, Lisa? Qu'est-ce qu'elles nous apportent, les fées? Qu'est-ce qu'elles nous racontent?
En fait, les fées, c'est le monde de la magie, c'est le monde de l'enfance, quoi. Donc, si j'écris des contes, c'est justement pour donner envie aux adultes de retrouver leur côté enfant intérieur, leur côté magique.
D'accord, mais une fée, est-ce qu'elle est obligatoirement. Par exemple, est-ce qu'elle est obligatoirement belle, comme Marie-France?
Mais les fées sont toujours belles.
Ah, d'accord.
Belles de l'intérieur. Tellement belles de l'intérieur que elles illuminent tout autour d'elles.
Mais moi, je crois que des fois, elles sont un peu méchantes.
Dans certains contes, elles peuvent être. Alors, je dirais pas méchantes, mais chippies. Ouais. Chippies. Un peu taquines.
Parce qu'en fait, elles répondent pas à la même logique que nous, c'est ça?
Exactement. Ouais. C'est ça. Hein. Les fées, c'est le monde invisible. C'est le monde de la magie. Donc il y a d'autres règles, il y a d'autres manières de communiquer dans le monde invisible.
Mais Lucas, il va pas faire trop peur à ses parents quand même?
Non, c'est plutôt même lui qui... Enfin, en fait, Lucas, il a la peur collée au ventre que ses parents l'abandonnent. Parce que comme il va avoir un petit frère, ou une petite sœur, on ne sait pas. Mais non, il fait pas peur à ses parents parce qu'en fait, il fugue sans leur rien leur dire.
Bon. Et alors, est-ce qu'il y en a d'autres des contes après ça?
Oui, il y en a deux autres en gestation. Donc il y en a un peu dans la même veine que Lucas. Et je voudrais. Là, il y a un autre recueil de trois petits contes qui arrivent que j'aimerais mettre en scène avec Youri.
Oui.
Voilà, pour mettre de la musique
derrière.
Voilà, et puis j'ai comme projet aussi d'aller raconter ces contes, de les conter à un jeune public. Donc, à l'école, à des médiathèques, à des bibliothèques. Voilà. D'ailleurs, je profite de cette émission pour faire un appel.
Tu peux regarder la caméra quand on fait un appel, on regarde franchement les gens dans les yeux, quoi. Mesdames et messieurs.
Voilà, mesdames et messieurs, je fais un appel à tous les directeurs d'école, de bibliothèque, de médiathèque, aux institutrices, enfin, bref, à tous ceux qui seraient intéressés pour que je vienne compter mon compte.
Mais dis donc, dis-moi, Lisa, je crois que tu vas être présente le 14 mai. C'est pas à Cheval ? Il y a un festival à Cheval ? Il faut y aller. Et puis je pense que Lisa, on va la retrouver sur le Festivox. Je vais demander à la dame. Rigolez pas. Non, mais par contre, si tu as eu un mauvais feeling avec Yanka, ça va être problématique parce qu'il va y être aussi. Hein. Alors tu peux décliner tout de suite.
Ouais. Ou arrondir les angles, je sais pas.
Bah écoute, donc voilà, ce petit bouquin qui est là, je prends encore une autre initiative. Vous pourrez l'acheter au syndicat d'initiative de Château Renard. Sur les présentoirs de territoires d'écriture qui viennent d'être mis. On essaie de monter là-bas une petite librairie, je vois pas pourquoi petite d'abord, une magnifique librairie d'auteurs locaux et régionaux. Voilà. On retrouvera le bouquin de Lisa. Falloir que je lui explique après ce que c'est que l'histoire des
chrétiens. J'espère que c'est pas un gros traquenard.
Yanka, c'est un gros traquenard ou pas? Il dit rien.
On en parlera.
Il dit rien. Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt, Sandrine.
Je me promenais le long des quais, le long de ma pâleur, quêtant à la ronde quelques petits sauts de bonheur. Quand à mes pieds je vis un tout petit cœur qu'on semblait avoir laissé là par erreur, pensant qu'à une étourdie il devait appartenir. Et ne voyant personne à qui je pouvais bien l'offrir, moi j'ai rapporté aux objets trouvés ce cœur qu'on semblait avoir laissé par erreur. Moi je n'ai vraiment jamais su ce que c'est qu'aimer, mais il faut dire que je suis un peu timide et que j'ai des manières, des modes, et pensant qu'à une étourdie il devait appartenir. Et ne voyant personne à qui je pouvais bien l'offrir, moi j'ai rapporté aux objets trouvés ce cœur qu'on semblait avoir laissé par erreur. C'est les 78 tours, mais ça les fait bouder. Dans un an, un jour, si elle n'est pas venue le chercher, je mettrai mes plus beaux habits, lavés et repassés. Il sera à moi, rien qu'à moi, ce petit cœur, et je pourrai enfin
C2L Radio
89.3.
Nous Nous sommes entre Loire et Loing, merci de nous écouter sur ces deux ailes. Place à présent à un vieux de la vieille, vous l'avez certainement croisé ici ou là, toujours actif, à donner plein de coups de main à tous les événements, à tous les assos de la région. Et là, il veut nous parler de la sienne d'asso, une asso humanitaire qui s'appelle Hercule Haïti, c'est Jeff Poitevin.
Il y a quelques mois, nous avions eu l'occasion d'accueillir Jeff Poitevin, c'était à l'âme. C'est ça, on était à l'agglomération, on était au Tivoli. Il s'en souvient déjà plus, parce qu'il est comme ça, Jeff Poitevin, de toute façon. Mais en tout cas, il nous a parlé de l'association Hercule Haïti. Et j'avais envie d'en savoir plus, maintenant qu'on reprend la saison. Où est-ce qu'on en est? Quand on parle d'Haïti, on n'est jamais sûr d'avoir de très bonnes nouvelles.
Oui, ben ça c'est rare d'ailleurs. Disons que... Pour parler d'Haïti, je pense qu'il faut revenir un peu sur l'histoire et comment s'est constitué ce pays. Il faut remonter à loin, parce que du côté de 1492, il y a des Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. En fait, il n'a pas découvert l'Amérique, il a découvert ce qu'on appelle les Grandes Antilles. Les Grandes Antilles, c'est l'île, c'est Cuba, c'est la Jamaïque, et c'est cette île qui s'appelle Hispaniola, qui maintenant est partagée en deux pays, qui s'appelle Haïti et Santo Domingo. Voilà. Au départ, une colonisation espagnole. Cette île était habitée par des Indiens qui s'appelaient les Arawaks. Sauf que les Indiens, c'était des chasseurs-cueilleurs, ils vivaient très bien comme ça. Ils n'avaient pas du tout envie de travailler pour les Espagnols qui, eux, cherchaient de l'or. Donc, les Espagnols ont fait apporter de la main-d'œuvre d'Afrique. C'est le fameux commerce triangulaire.
Entre-temps, les Indiens, ils avaient été décimés.
Les Indiens ont été décimés, soit par la force, soit par la maladie d'ailleurs, des maladies importées. Donc il n'y a plus d'Indiens du tout en Haïti. Mais par contre, il y a beaucoup, la population essentiellement d'origine africaine, des descendants de l'esclavage. Suite à la colonisation espagnole, il y a eu un traité sous Louis XIV, dont je ne me rappelle pas trop exactement comment ça s'est emmanché, une histoire de mariage avec une infante d'Espagne ou un machin dans ce genre-là. C'est devenu une colonie française. Donc on est au XVIe, XVIIe siècle, voilà. Jusqu'à la Révolution française. Et en 1492, la Révolution française abolit l'esclavage.
1792,
oui. Abolition de l'esclavage. Les esclaves haïtiens, ce qu'on appelle les marrons, c'est-à-dire ceux qui étaient, qui n'appartenaient plus à leurs propriétaires, voilà, avaient déjà commencé à se révolter contre les patrons esclavagistes. Et avec leur émancipation, ils sont tout contents, mais pour l'instant, on ne parle pas d'indépendance ni quoi que ce soit. Sauf que 1802, Napoléon rétablit l'esclavage. Grosse guerre, une bataille, la première défaite de Napoléon à la bataille de Vertières en Haïti, et les troupes françaises, corps expéditionnaire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour l'époque, 30 000 hommes, traverser l'Atlantique sur des bateaux en bois, à voile, dont le maximum doit être 300 personnes à bord. C'était vraiment une invasion massive. Le débarquement de juin 44, c'est de la gnagnotte à côté, hein. C'est par rapport à l'époque. Et on n'est pas sur les mêmes bases. Et pourtant, ils ont pris une raclée. Il faut dire que quand on voit comment étaient équipés les soldats de Napoléon et qu'on voit le climat haïtien où il fait 32 degrés à l'ombre couramment, ça ne pouvait pas trop le faire, plus la malaria, etc. Donc, et 1804, Haïti devient un État indépendant, au grand dam de la France. Et arrive en France Louis-Philippe, qui, lui, entreprend de faire payer, indemniser les colons français qui étaient là-bas. Et il condamne Haïti, sous peine d'une autre invasion militaire, condamne Haïti à payer des dédommagements qu'ils ont fini de payer il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est en 1982 ou un truc comme ça. Et parce qu'il y a eu le remboursement de cette somme, qui était en francs or à l'époque, c'était une somme énorme, et... En plus, les intérêts de dette qui ont été... Alors, il faut quand même citer une banque française, le CIC, notamment, qui a en 1982 encaisser les intérêts pendant des années et des années. Merci pour eux.
Bon, moi j'ai entendu 1982, j'essaie de faire plus rapide, si tu veux.
Voilà.
Donc, alors,
j'ai fait le plus court possible.
T'as fait le plus court, alors on est en 82. Alors,
mais, non, avant.
Mais dis-moi, ouais, mais pourquoi toi tu t'intéresses de si près à cette histoire? C'est venu comment? T'as ouvert un livre par hasard? C'est quelqu'un qui t'a passionné? Comment ça s'est passé?
Bon, c'est un grand hasard par une amie qui avait un employé, on va dire, à Saint-Martin, dans les Antilles, qui était un Haïtien. Et puis en discutant avec lui un jour, parce qu'il faisait un peu partie de la famille, quoi, là-bas, on avait été passer quelques jours de vacances, et qui nous a proposé d'aller, il nous a dit, ben, faudrait venez visiter mon pays. Alors, on a fait 9000 km, on pouvait en faire 2000 de plus. Au point de vue du bilan carbone, on était déjà bien. Donc on est débarqué en Haïti. Et c'était quand on arrive en Haïti, ça fait drôle. Hein.
C'était quand
2001.
Et c'était le nous, c'est Yvette, ta femme et toi.
Ouais, voilà. Et okay. Une amie qui s'appelle Patricia.
D'accord.
Voilà, on est débarqué à Haïti.
Et vous décidez de faire quelque chose pour eux.
Ben, d'abord, ce monsieur s'appelle Sénor Hercule, d'où le nom d'association Hercule Haïti. Voilà.
Ok.
Et quand on débarque de l'avion et qu'on sort dans l'aéroport à Port-au-Prince, on arrive dans un autre monde. C'est, on n'est plus comme quand on sort d'un autre aéroport, même africain. C'est pas du tout, on arrive dans un pays pauvre. Et ça saute au nez. Et pourtant, après, petit à petit, donc on a été dans le sud d'Haïti, le point d'où est origine Fénor. Et puis là, un des problèmes, c'est l'éducation en Haïti, parce que c'est en lambeaux, comme tout le reste de l'État haïtien. Et à titre personnel, on finançait, parce que l'école est payante, il n'y a pas d'école d'État pratiquement. Et l'école est payante, donc on finançait la scolarité au travers d'une petite association haïtienne qui s'appelle CDH.
Mais je vais y arriver.
Jusqu'à 2010.
Voilà, on est réussi. 2010, mais en fait, elle est assez récente, ton assos.
Non, alors pour l'instant, la science n'existe pas encore.
Quoi?
Non. Là, c'était vous, un type personnel.
Bon, et voilà. Hercule Haïti, ça arrive quand?
À l'attente.
Ah
2010, gros tremblement de terre, vous avez sûrement entendu parler, avec 300 000 morts, enfin, etc., en Haïti. En 2010, on n'a pas été en Haïti, parce que c'était pas le moment d'aller traîner. De semer la panique en plus, quoi, c'est comme je le dis. Donc on y retourne en 2011 et on avait entendu dans les moyens d'information qu'il y avait grosso modo, je crois, 10 milliards qui étaient prévus de l'aide étrangère qui venait de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, enfin, un peu partout au monde, pour aider à la reconstruction d'Haïti. Quand on arrive sur place, les 10 milliards, on les cherche partout, on ne les trouve pas. Officiellement, l'ONU a reconnu qu'il y en avait 1 milliard qui était arrivé sur le terrain. Et que de ce 1 milliard, il y en a à peu près 90% qui est parti en fumée, en corruption diverse, etc. Donc il n'y a rien été fait. Vous allez à Port-au-Prince, la capitale, le palais présidentiel s'était écroulé pendant le... il n'est toujours pas construit.
Ça, c'est pas
la cathédrale de Port-au-Prince, elle est par terre et elle est pas reconstruite. Il y a les maisons qui sont effondrées,
la plupart
ne sont pas reconstruites non plus, etc., etc. Et il y a plein de gens de Port-au-Prince n'ayant plus de lieux pour habiter, qui sont retournés dans leur province d'origine un petit peu partout. Voilà.
Donc, tu décides de fonder Hercule Haïti.
Et c'est là qu'on décide avec deux amis, donc à quatre, de monter cette association. En temps de se mettre d'accord, tout ça, on a monté l'association. L'association a été déposée en 2014.
À l'heure actuelle, il y a combien d'adhérents?
50, 60, ça dépend des années.
Vous pouvez adhérer. Voilà. Ah oui, et vous avez acheté plein de trucs, vous avez acheté des bœufs, vous avez acheté.
Après, c'est tout un
chinois. Acheter, puis c'est pas acheter, quoi.
Non, c'est pour ça que je parlais qu'il faut faire l'histoire d'Haïti. Haïti, jusqu'à. Dans le raccourci historique, Haïti a été occupé par les États-Unis entre 1920 et 1935. On parle beaucoup de la colonisation française, mais la colonisation française est finie depuis 1804, quand même. Colonisation américaine pendant 15 ans, et la guerre de 39-40 arrive derrière, de 39-40-45 même. Or, en 39-45, le Japonais avait occupé toutes les îles du sud-est, les États du sud-est asiatique, Thaïlande, Malaisie, etc., où on cultive notamment un truc qui s'appelle l'EVA, et qui est une plante qui permet de la tech et la fabrication du caoutchouc. comme ils ne pouvaient plus faire et le caoutchouc, c'est indispensable à l'industrie, et en particulier l'industrie de guerre. De guerre. Voilà. Donc, l'EVA est en fait une plante d'origine sud-américaine.
Non, mais rentre pas dans l'origine de l'EVA.
L'EVA.
Ils en ont planté partout en Haïti.
En Haïti, mais a fallu déforester. Ils ont déforesté Haïti pour planter de l'EVA à la place. C'était la guerre a fini en 1940, mais un EVA, c'est un arbre, il faut le temps que ça pousse. Hein. Mmh. Et la guerre a fini en 1945.
C'est vrai.
Les Américains sont partis, les EVA sont restés sur place.
Mais ils voulaient partir.
La concurrence asiatique, les exportations asiatiques sont revenues. En Asie, ils avaient la main-d'œuvre qui savait faire, les compétences techniques, etc. Haïti n'était absolument pas concurrentiel. Ça a été abandonné. Il y a eu 12,5 kg, ça mérite d'être dit, 12,5 kg de latex qui ont été extraits d'Haïti.
Bon, donc,
ça a été ravagé.
C'est ça, la biodiversité est ravagée.
La biodiversité
est complètement ravagée. Une île boisée devient une île désertique. Voilà.
Et Haïti est un pays qui était, dans les années 30, avant cette guerre, était exportateur au point de vue agricole. Et c'est maintenant un pays qui est importateur au point de vue agricole. C'est un pays qui
n'est plus autosuffisant. Tu peux même regarder là, si tu veux.
Qui n'est plus autosuffisant alimentaire. Et c'est de ces constats-là qu'on a organisé les interventions d'Hercule Haïti. Ce n'est pas normal que ce pays, les gens ne puissent pas manger leur pain.
Et ne sachent plus avoir une agriculture traditionnelle de polyculture.
De polyculture, on va prendre l'exemple du riz, qui quand même, les Haïtiens produisaient du riz dans l'état d'un fleuve principal qui s'appelle l'Artibonite. Et maintenant, ils sont en concurrence avec le riz d'importation, notamment le riz blanc américain, qui leur arrive même des fois sous forme d'aide avec les sacs USL, c'est-à-dire gratuitement.
Tu veux dire qu'ils ne savent plus le planter, le faire cultiver.
C'est pas qu'ils savent plus, c'est que le riz produit en Haïti est plus cher qu'un paysan haïtien. Il a 2 hectares, et encore, c'est presque un riz, celui-là, alors qu'un riziculteur de Nouvelle-Orléans ou du sud des États-Unis, il est sur 1000 ou 2000 hectares, mais mécanisé et tout. Donc, et c'est subventionné, donc en plus, donc comme ils ne peuvent pas s'en tirer, le riz haïtien en Haïti coûte plus cher que le riz importé.
Donc, concrètement, on va y arriver, qu'avez-vous fait pour les Haïtiens depuis à peu près 10 ans?
Alors partons de là, moi je ne suis pas agriculteur, je ne suis pas agronome non plus, et on s'est renseigné autour. On a été dans le centre d'Haïti, sur le plateau central, ici, on a rencontré le dirigeant d'un mouvement qui s'appelle le MPP, le mouvement paysan papaye, c'est un mouvement de 60 000 paysans quand même, c'est énorme. Hein. Et on a vu avec lui les méthodes qu'ils utilisaient. Donc, alors, ils utilisent en agroécologie, on peut dire que c'est mieux, mais c'est surtout qu'il ne faut surtout pas qu'ils fassent appel à des engrais ou à des trucs comme ça parce qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter.
Ouais.
Et donc, il faudrait qu'ils s'endettent, donc ça les couvrait rapidement.
Bon, alors, qu'est-ce que vous avez proposé
donc,
comme solution?
On a été voir un petit groupe, là. Alors, on a dit, pour faire ça, et qu'est-ce qu'il vous faut? Ils nous ont dit que la culture, c'est bien, mais à la houe, à la main, quand tu es dans un sous un climat tropical, c'est quand même un petit peu fatigant, même c'est quand même enfant, c'est quand même le dire. Ce qu'on veut, c'est des bœufs. Deux bœufs, une charrue. Donc, on a été au marché. Alors, le marché local pour l'achat des bœufs, c'est qu'il faut connaître. Et une petite charrue qui a été fabrication locale. Voilà. On leur a amené ça. Alors, ils ont produit, ils ont pu agrandir un peu leur terre. Donc, arriver à l'autosuffisance alimentaire, puisque c'est quand même déjà le premier truc. C'est-à-dire qu'ils avaient de quoi se nourrir, eux. Et puis, ils arrivaient même un petit peu de production un peu plus, un peu de surproduction, c'est pas de la surproduction, mais pouvoir aller vendre au marché. Mon mieux pour le marché est à 11 km. Donc, pour aller à 11 km avec des sacs de légumes sur le dos, c'est pas terrible.
Donc, vous avez quoi?
On a acheté une motobelle, c'est un truc à 3 roues, fabriqué en Chine, ça coûte pas trop cher et ça marche bien. C'est un peu tout terrain, plus, donc ça va. Donc voilà, puis après, derrière ça, mais si on peut transformer un peu le produit. Le maïs, là-bas, il pousse tout seul, il n'y a pas besoin de l'arroser, hein, ça va bien. C'est une plante d'origine américaine, ouais. le maïs. Et le maïs, ils ont un truc qu'ils font avec, pour l'utiliser, ils font un peu ce qu'ils appellent maïs moulu, c'est-à-dire c'est un genre de couscous avec du maïs, quoi, de la semoule de maïs.
Comme une polenta,
voilà.
Quoi.
Ouais, voilà, mmh. Pareil, c'est pareil que la polenta, etc. Voilà, donc on a récupéré un moulin ici, ça a été une grosse expédition pour l'envoyer d'abord, et avec des meules pour pouvoir faire de ça. Donc maintenant, ils se débrouillent. C'est ce groupe-là, qui était une soixantaine de personnes, ce groupe-là, ben, puis, comme ça a bien marché, il n'y a pas de raison de ne pas essayer ailleurs.
Donc ça, c'est le prochain projet ? Continuer ailleurs ?
Ça y est, ça c'est ça y est. Le prochain projet, c'est fait, ça. Ça a été tortillé en deux ans, ça.
Donc on en est où, là, en 2023 ?
Et là, maintenant, on est avec un autre groupe de paysans, beaucoup plus nombreux, à 10 km, mais de l'autre côté, à l'opposé de la ville de Hinche, sur le plateau central. Et où là, ils sont 200, 250 familles, exactement, je ne sais pas les compter, qui sont organisés justement en groupement ou selon un système, c'est-à-dire que chacun a autour de sa maison son petit jardin, ça c'est pour eux, et les terres sont mises en commun, cultivées en commun. C'est un peu le principe des cols rouges, quoi.
C'est très bien, c'est le bon principe. Voilà.
Et donc là, Rebeu, c'est le cas de le dire, mais il n'y a pas de mauvais jeu de mots. Rebeu.
Ça, c'est un nouveau... Il y a le prof de français qui nous écoute là. Alors, il va prendre des notes. C'est un nouveau mot, c'est rebeu. C'est à nouveau un achat de bœuf.
Voilà.
Il faut qu'on le mette dans la rousse 2030, il va rentrer.
Voilà, je suis content d'avoir fait celui-là. J'essaierai de te repasser à nouveau.
Oui, allez bien.
Donc, achat de bœuf, achat de charrue. Donc là, deux couples de bœufs. Et ça coûte, c'est 100 euros, un couple de bœufs.
Tu sais maintenant, je trouve que personne ne sait.
D'abord, oui, mais je vais vous donner d'autres prix après. Et oui, avec la charrue, ça fait 1800 balles pour les deux bœufs et la charrue. Et le résultat est le même, c'est-à-dire que cela permet d'agrandir leur surface cultivée, d'arriver aussi à une autosuffisance. Ils ne crevaient pas de faim à ce moment-là, hein, les paysans, mais... d'avoir un peu de surproduction pour pouvoir aller vendre au marché, donc Motobel, c'est pas le même jeu de mots, et là, addiction d'eau pour. Parce que la flotte, c'est à 2 km qu'il faut aller chercher, l'eau buvable, donc se promener, on voit les gamins se promener avec des bidons.
Regarde l'heure. T'as vu, on a fait 17 minutes 30.
C'est bien, c'est pas bien.
Mais non, mais attends, faut que t'arrêtes parce qu'après, vous n'écoutez plus, amis d'entre Loire et Loire, vous avez bien raison en plus. Alors,
Donc maintenant, ils ont deux lots.
Oui.
depuis deux forages, non, mais l'eau à peu près potable.
Et vous avez financé les forages ?
Et les forages.
Mais c'est pas avec mon adhésion que tu finances tout ça,
Jeff. Les premiers trucs qu'on a fait, c'était sur nos finances à nous. Mais depuis là, parce que avec 250 familles, là, c'est beaucoup plus gros,
oui.
Donc on est financé par le département de Loiret et la région centre. Là, pour l'histoire, que ce que je viens de vous donner, c'était un budget de 15 000 euros au total. Et ça fonctionne très bien. Et je suis très content parce que je ne m'attendais même pas à un résultat aussi bon que ça. C'est-à-dire que c'est eux, maintenant, qu'ils veulent construire l'école.
C'est beau.
Parce que leur premier truc, c'est que leurs gamins soient instruits. Et ça, c'est.
Mais t'es ému.
Ah oui.
Mais c'est incroyable, Jeff Poitevin ému. Moi qui croyais que c'était un vieux crabe depuis des années, mais il est capable d'émotion quand il entend dire que les enfants d'Haïti vont pouvoir avoir une éducation correcte et aller à l'école.
Donc là, il y en a pour 30 000 balles.
Voilà, avec des larmes comme ça, on a vraiment envie de les aider. Donc d'adhérer à Hercule Haïti, vous avez les numéros de téléphone, ou je sais pas, Monsieur Weber, il va très bien se débrouiller avec tout ça. Et puis ça va, on a fait le tour.
Voilà, donc ça va se faire là, d'ici peu sous pas tard. Si j'ai les
subventions. Moi j'aime bien d'ici peu sous pas tard. Tu notes aussi « d'ici peu sous pas tard », tu l'aimes bien ça.
Oui, ça voilà.
Ce qui n'a rien à voir avec l'adjoint de Courtenay.
Mais là, c'est le budget plus gros, je ne sais pas si j'aurais les... Bon, on attend d'avoir les sous pour les...
Alors moi, j'aimais bien acheter des objets, des trucs et des machins. Alors moi, j'aimerais bien pouvoir acheter des objets à nouveau. Hein.
On avait l'habitude de ramener quand on allait, parce qu'on a été, je sais pas, j'ai été peut-être 12-15
ans. J'ai remis 2 thunes dans le bastringue. Elle était là, et on s'était promis, monsieur Weber, de faire des émissions courtes avec Jeff Poitvin, c'est pas possible.
On va faire un feuilleton, en fait.
On va faire un feuilleton, c'est ça. Donc, merci beaucoup. À l'année prochaine. Ça
voilà,
te va?
Ok. Je vais donner une nouvelle de l'école.
Ah ouais, ça c'est voilà. Bien.
Un truc important. Le copain et chien qui gère oui. Tout ça là, pour cette école, c'est un mec qui est inspecteur des échelles nationales là-bas. Donc, pour la sélection des. Comme c'est une école qui est en tête privée, une école communautaire, c'est ouais. L'échelon qui la finance.
Ah ouais.
C'est leur. Leur
ah ouais, c'est certainement c'est pas ce l'État, paye, c'est, ouais, c'est ça.
C'est ce qui paye, qui permet de payer les instituts. Hein.
Et c'est Fédor Hercule.
Non,
là, c'est plus.
Non, celui-là il s'appelle Ronald.
Voilà. C'est tout. Merci.
Nous étions entre Loire et Loin, merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur les réseaux, en vidéo, sur Facebook, sur YouTube. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Merci à toute l'équipe, merci à Sandrine, Anita, JB, c'était Pascal au micro et à la réal. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 10h sur C2L. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous.
C2L.
C2L Radio.
89.3.